Est-ce que vous avez une bonne mémoire, vous autres? Non, hein? Vous êtes comme moi, probablement. Mais il y en a, c'est phénoménal. Ils ont toutes une mémoire. Prenez ma femme, par exemple. Ma femme se souvient de tous les détails. C'est incroyable. Elle se souvient, elle a un paquet de souvenirs de sa jeunesse. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Pas énormément. Je me souviens pas de beaucoup de choses, de beaucoup de détails. Mais je me souviens d'une chose que ma mère me disait. C'est une phrase qu'elle me disait, et probablement que je m'en souviens parce qu'elle me l'a dit très souvent. Elle revenait très souvent avec ça. Parfois, lorsqu'elle me demandait de faire quelque chose, maintenant j'étais très jeune, et vous savez, quand t'es jeune, tu découvres la vie, t'as des nouveaux défis devant toi chaque jour. Hein. Au début, c'est d'apprendre à marcher, tout ça. Après ça, t'apprends à courir. Après ça, t'apprends à faire du bicycle. Alors, il y a des phases dans ta vie où tu dois apprendre des leçons. Et je me rappelle lorsque je me retrouvais devant un obstacle, un défi à surmonter, ça m'arrivait souvent de dire à maman, « Maman, je suis pas capable. Je suis pas capable, maman, c'est trop dur, je suis pas capable. » Et je m'en souviens comme si c'était hier, ma mère, de dire, et elle disait toujours ça, « Normand, pas capable, c'est pas dans le dictionnaire. » Bon, si j'avais été plus vieux, j'aurais pu lui dire, « Ouais, mais le mot incapable l'est. » Mais j'étais tellement jeune que j'ai dit, « Ah, OK, pas capable, c'est pas dans le dictionnaire. » Mais ce que ma mère est en train de faire, c'est qu'elle est en train de me préparer pour l'avenir. Exact? Elle est en train de m'enseigner que des fois, ça va arriver que tu vas te retrouver devant des obstacles et à première vue, elles seront insurmontables. Ça va être difficile de passer à travers et de continuer. Mais ce que ça prend, c'est de la persévérance, de continuer, de pas lancer la serviette trop vite, de pas lâcher, de se décourager. Il faut foncer. Elle était en train de me préparer pour lorsque je serai vieux, lorsque je serai plus vieux, et faire face à tous les défis de la vie. Eh bien, Jésus va faire exactement la même chose avec ses disciples. On va retrouver Jésus à une époque, à un moment dans son ministère où il va tranquillement finir son séjour dans un territoire, dans une région, pour tranquillement se diriger vers Jérusalem et conséquemment vers la fin de sa vie, vers sa mort. On arrive dans un moment important et les disciples auront besoin d'apprendre certains principes très importants pour que lorsque Jésus sera parti, ne sera plus avec eux, du moins physiquement, afin qu'ils puissent faire face aux nombreux défis au ministère auxquels qu'ils devront exercer. Alors, on va prendre l'histoire ce matin dans ce passage où Jésus est en train de descendre de la montagne de Transfiguration. Un magnifique passage où Jésus est en haut de la montagne. Il a amené avec lui trois disciples et là, en haut de la montagne, tout d'un coup, devant Pierre, Jacques et Jean, il va passer par la transfiguration. Jésus sera changé d'une façon tout à fait éclatante, magnifique. Ce sera la gloire, ce sera la présence de Dieu. Ce sera éclatant. C'est la Shekinah, la lumière divine. Et là, c'est comme si Jésus va, pour un instant, ouvrir le rideau, montrant vraiment qui il est. Juste à quelques-uns de ses disciples. Et ça, c'est en train de se passer en haut. Mais il faut savoir que s'il y a trois disciples en haut de la montagne, il en reste neuf en bas de la montagne qui continuent à exercer leur ministère. Jésus leur avait confié une mission de guérir les malades, de chasser les démons. Et Jésus leur avait donné les dons de chasser des démons, le don de faire des miracles, de guérir des gens malades. Et ils ont donc commencé ce ministère-là. Ils sont en train donc d'exercer un ministère auprès de la foule, les gens qui emmènent leurs malades voir ses disciples. Et ça se produit en bas de la vallée, en bas de la montagne. Maintenant, le passage que nous allons lire est important pour nous puisqu'il nous enseigne comment donc triompher des obstacles que l'on rencontre au cours de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous encourage à tourner dans le livre de Matthieu. Et c'est un épisode très intéressant parce que ce sera pour la première fois que les disciples vont avoir un échec. Jusqu'ici, C'est glorieux. C'est vraiment fantastique. Imaginez les parents qui emmènent tous leurs enfants, leurs malades, et les familles qui viennent, emmènent les cousins, les amis, les voisins qui sont malades, et les emmènent devant les disciples, et les disciples les guérissent à tour de rôle, un après l'autre. Et c'est tout à fait glorieux, les gens glorifient Dieu, les gens sont excités, c'est magnifique. Mais voilà, on va voir une histoire ce matin, alors qu'un homme va venir voir les disciples avec son fils. C'est le papa, le père, et dont le fils est très malade, et il emmène ce fils envers les disciples, et les disciples essaient de guérir, mais ça ne fonctionne pas. Imaginez, les disciples, pour la première fois de leur ministère, ont un échec. Ça devait être difficile pour les disciples, vrai? Toute la foule voit que tu n'es pas capable de guérir le malade. Et là, on commence à se poser toutes sortes de questions dans la foule. Il y a des murmures, évidemment, des critiques, ce ne sera pas long. Et là, on se pose la question, et même les disciples eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Incapables de guérir cet enfant-là. Vous savez, c'est dans une période importante où Jésus va donner une série, il va commencer une série, il le fait déjà, mais les prochains chapitres, c'est vraiment intensif, où Jésus va passer plus de temps avec ses disciples pour les former, parce qu'il va partir bientôt. Alors, les chapitres qui vont, le chapitre 17 qu'on va voir aujourd'hui et les chapitres qui suivent sont bourrés d'enseignements. Par exemple, les chapitres 17 à 20, Jésus va les préparer pour son départ. Et ce sont des principes qui sont également importants pour chacun d'entre nous. Jésus nous montre comment vivre dans ce monde, dans le fond. Par exemple, on voit déjà dans le chapitre 18, le chapitre qui suit, Jésus va enseigner sur l'humilité, sur les offenses. Ensuite, il va enseigner sur la discipline. Au chapitre 19, il enseigne sur le mariage, sur le divorce, sur les enfants, la richesse et les récompenses. Au chapitre suivant, au chapitre 20, il enseignera sur la compassion. Ce sont des principes de vie, des principes pour chacun d'entre nous qui sommes membres du royaume de Dieu. C'est la façon de vivre quand tu es citoyen du royaume de Dieu, de la famille de Dieu. Quand tu fais partie de la famille de Dieu, ta façon de vivre est différente. Et Jésus va se livrer donc à cette période d'enseignement qui vont suivre jusqu'au chapitre 20. Alors aujourd'hui, on va regarder donc cette leçon qui est tirée d'une expérience qui est embarrassante pour les disciples alors qu'ils vont essuyer un échec. Si vous voulez donc prendre le chapitre 17, et on va lire juste quelques versets, suivez avec moi les passages, n'allez pas trop vite, allez à mon rythme, d'accord? Les versets 14, et on va arrêter la lecture au verset 16. Donc, Matthieu 17, je vois les placeurs se promener avec des Bibles. Si jamais vous n'avez pas de Bible, levez la main et tout de suite, quelqu'un va aller vous porter une Bible pour suivre. Matthieu 17, verset 14. Alors, on espère que vous êtes là. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc Jésus descend de la montagne, il vient de quitter ce lieu qui était tout à fait béni au sommet de la montagne où il y a eu la transfiguration majestueuse de Christ. Et il descend de la montagne, et aussitôt qu'il descend de la montagne, il fera la rencontre d'un homme. Lorsqu'ils furent, verset 14, arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. » Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Regardez bien le verset 16. On va arrêter au verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas été capables de le guérir. Voici un père qui se jette à genoux devant Jésus aussitôt que Jésus descend de la montagne. Et il supplie le Seigneur Jésus de guérir son fils. Et on peut comprendre lorsqu'on lit les détails, les descriptions de l'état de santé de son fils. Il demande en fond à Jésus d'avoir de la compassion pour lui. Aie pitié de mon fils, guéris-le. Le père souffre de voir son enfant souffrir terriblement. Il plaide pour lui. Matthieu nous fournit certains détails de ce fils. Et quand on ajoute d'autres détails des autres évangiles, dont Marc et Luc, on peut comprendre certainement la douleur de ce père de voir son fils qui souffrait terriblement. On apprend par exemple, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il est lunatique. Pour nous, quand on dit quelqu'un est lunatique, on pense à quelqu'un qui est dans la lune. Hein? C'est à l'école, le professeur est en avant, tu regardes, puis là, t'es comme parti, juste à regarder tes yeux, là, puis le gars, il est plus là. Mais c'est pas ça que ça veut dire. En fait, le mot est vraiment bien traduit en passant. J'ai traduit tout le passage avant de l'étudier directement à l'original, tout ça, pouvoir comprendre chaque mot, chaque temps de verbe et tout ça, vraiment comprendre et saisir là, ce qui se passait dans l'original. Et le mot est vraiment bien traduit. Il y a une raison pour ça, c'est que dans l'Antiquité, on pense, la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit de crise d'épilepsie. Ça allait plus loin que ça, évidemment, c'était plus grave, même, quoique c'est grave, l'épilepsie, mais vous allez voir, vous allez comprendre avec ce qui va suivre, ce qui se passe. C'est au-delà même de problèmes physiques, c'est même spirituel à ce point-ci, dans le cas de ce fils. Mais il est lunatique. Et on pensait, on croyait dans l'Antiquité que des crises d'épilepsie, on associait l'épilepsie avec le pouvoir surnaturel de la lune. D'où lunatique, voyez-vous. On pensait qu'il y avait des forces surnaturelles qui influençaient, qui se jetaient sur l'enfant et qui le poussaient à faire des crises, qui le mettaient dans un état tout à fait second. Ce que l'on sait aussi par d'autres détails, Matthieu ne donne pas beaucoup de détails, probablement par exprès. Matthieu ne met pas l'accent sur la description de l'enfant. Probablement que Matthieu veut aller tout de suite au point, aller tout de suite au message. Marc veut faire ressortir un peu plus la compassion de Jésus-Christ et nous faire comprendre un peu la misère de cet enfant-là. Alors, on va aller voir, je vais juste vous dire un peu des choses, des détails qu'on peut connaître de cet enfant-là. Laissez-moi vous dire ce que Marc ajoute. On apprend par Marc que l'enfant est sourd et muet. Alors, non seulement il fait des crises d'épilepsie, mais en plus, il est sourd, il est muet. Mais on apprend aussi par Matthieu qu'il lui arrivait très souvent de tomber même dans le feu et dans l'eau. Il faisait des crises, tombait dans un état tout à fait, perdait le contrôle. Et lorsque ça lui arrivait, il tombait dans des feux. Alors, il y avait plusieurs feux dans la ville. Parfois, les gens faisaient cuire la nourriture à l'extérieur, juste au sol. Alors, vous pouvez imaginer dans un village, il y avait plusieurs petits feux ici et là, certains plus gros que d'autres. Et aussi, il y avait des courants d'eau ici et là. Donc, ça arrivait lorsque cet enfant-là tombait en état de crise, qu'il tombait dans le feu. Alors, vous pouvez imaginer, c'est arrivé, même son père le dit bien, qu'il tombe dans le feu. Donc, vous pouvez imaginer cet enfant-là, non seulement souffre de son état de santé, souffre le fait qu'il est muet, sourd, qu'il fait des crises d'épilepsie, mais en plus, il s'est brûlé. Il s'est brûlé, là, à plusieurs reprises. Il a des marques, des brûlures sur le corps, il est tombé dans le feu à quelques reprises, tombe dans l'eau, risque de se noyer. Alors, lorsque ça lui arrive, c'est très dangereux, il devient très vulnérable. Il peut se noyer, se brûler. Marc va même ajouter un autre détail, c'est que cet enfant-là est possédé d'un démon. Un démon très violent. Le démon qui était en lui le jetait par terre. Le mot jeter, même dans l'original, c'est l'idée de briser, vouloir casser, briser. Donc voilà un démon qui est très violent en lui, qui le projette, qui le jette par terre, le fait frapper au sol, frapper sur les murs, sur la pierre, dans le but de le détruire. Le démon qui était en lui voulait le détruire et le tuer. Pauvre enfant. L'écume, très souvent à la bouche, lorsqu'il tombait en crise, grinçait des dents, son corps raidissait. Il était en train de se détruire. Une situation difficile pour cet enfant-là et certainement pour son père. Son père qui le voyait souffrir depuis des années, parce que Jésus a même demandé à cet homme-là, dans Marc, on apprend ça, que ça faisait combien de temps, Jésus lui demande, ça fait combien de temps qu'il est dans cet état-là, et son père va lui dire que c'est depuis qu'il est jeune. Pourtant, le mot qu'on va employer pour parler de l'âge de l'enfant, c'est avant la puberté, donc il est déjà jeune. Alors, vous pouvez imaginer si le père répond en disant, depuis qu'il est plus jeune, ça faisait très longtemps, donc ça a commencé alors qu'il était très petit. Marc va même ajouter un autre détail. Va dire que le démon est impur. Ça laisse entendre que probablement qu'il blasphémait, qu'il commettait des gestes indécents, hors de contrôle. Il était comme ça depuis des années. Le père souffre de voir son enfant comme ça. Quel contraste! quel contraste entre la scène qui vient de nous être dépeinte juste avant avec la montagne de Transfiguration. Quel contraste avec Jésus qui était au sommet de la montagne dans la gloire, alors que la lumière divine, le Shekinah, émane de la personne du Christ. Et là, tu es là dans la présence de Dieu, la beauté, l'éclat, l'émerveillement, la sainteté, la pureté de Christ au sommet de la montagne, et voilà au bas de la vallée. Au bas de la vallée, vous voyez les ténèbres à son pire. Vous voyez le ravage de la malédiction, le châtiment du péché à son pire. Ça nous fait penser à une autre scène, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, où Moïse était en haut de la montagne, dans la présence de Dieu pendant 40 jours, dans la beauté, la sainteté, l'éclat, où Dieu s'est révélé à Moïse, où Moïse avait demandé de voir juste un soupçon de Dieu. Et là, Dieu accepte de montrer, de passer juste à côté en cachant Moïse pour le protéger parce que la lumière brillante aurait carrément tué Moïse parce qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Et là, Dieu qui se révèle un moment, qui révèle sa gloire à Moïse pendant 40 jours. Et là, Moïse va descendre la montagne et qu'est-ce qu'il retrouve? L'apostasie d'Israël. Voilà une scène qui se répète avec Jésus du haut de la montagne, qui descend de la montagne et va retrouver cette scène. Cette scène qui est la conséquence du péché, l'incrédulité. Alors, le Père supplie Jésus de le guérir, mais là on apprend que ce Père était déjà allé voir les disciples pour qu'ils guérissent son fils, mais c'était un échec. On lit ça au verset 16. « Je l'ai emmené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Comme c'est étrange. C'est étrange parce que, pensez-y, c'est pas normal que les disciples ne soient pas en mesure de guérir cet enfant-là. Pourquoi c'est pas normal? Mais parce que, si on recule un petit peu dans le chapitre 10, nous lisons dans le chapitre 10, verset 1, dans le même livre, Matthieu, nous lisons ce qui suit. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples. » Ça, c'est au chapitre 10, au chapitre avant. Ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Les disciples avaient reçu non seulement la promesse de la part de Jésus de pouvoir guérir les malades, non seulement qu'ils ont reçu par le Saint-Esprit le don de miracle, la puissance qu'il fallait pour guérir tous les malades et tous ceux qui étaient possédés des démons. Tous les malades, ils avaient tout ce dont il fallait pour guérir cet enfant malade. Alors, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient les dons de guérir. Mais là, ça marche pas. Il manque quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Les disciples sont tout d'un coup incapables d'exercer leur ministère, incapables de servir Dieu, incapables de surmonter cette épreuve-là, un obstacle. C'est comme si tout d'un coup, ils ne sont plus capables de puiser de la puissance de Dieu. Ouf, en apprenant la nouvelle, Jésus n'est pas content. Vraiment pas content. Jésus est exaspéré et c'est rare. Ça nous est pas donné très souvent de voir le cœur de Jésus-Christ. Mais là, on voit l'émotion ici de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'émotions dans la réaction de Jésus. Voyez au verset 17, la réponse, la réaction de Jésus. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi là ici. Regardez bien ce que ça dit dans une autre traduction. Darby, qui est vraiment intéressant parce que justement dans le texte original, ça dit exactement ça. Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule! » Vraiment, là, il y a un soupir d'exaspération. Oh! Et c'est là, là. Oh, génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Maintenant, l'exaspération de Jésus provient de l'incrédulité de sa génération. Tout comme Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, retrouve l'apostasie d'Israël. Voilà que Jésus qui descend de la montagne et voit quoi? L'incrédulité d'Israël. L'Esprit Saint nous laisse entrevoir ici le cœur de Jésus face à l'incrédulité. Jésus est très patient, mais ici on le voit très frustré. Jésus est exaspéré. N'oublions pas que Jésus est habitué de travailler avec des anges qui obéissent comme ça. Jésus donnait un ordre et comme ça les anges obéissent. Des anges lui sont soumis, lui donnent gloire, ils ont encore une confiance totale et parfaite de la personne du Christ. Jusqu'à quand vous supporterai-je, dira Jésus. Jésus souffre de voir l'incrédulité des gens, il est déçu. Maintenant, de qui parle-t-il lorsqu'il parle de cette génération? Évidemment, il parle des gens qui sont là, mais il parle en particulier aussi des disciples. Les disciples font partie. Ça s'adresse aux disciples. Ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est que les disciples sont le symbole, sont un symbole du cœur infidèle de toute la génération. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu, voilà ce qui va arriver. On va avoir un cœur tortueux. Le mot pervers ici est intéressant. C'est un mot qu'on servait à l'époque pour un artisan maladroit qui fabrique un objet, mais tout croche. Quelqu'un qui n'est pas soigné. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il fabrique un objet, soit un meuble et tout ça, et la pâte est tout croche. Il fabrique un objet qui est croche. C'est ça, pervers. C'est d'être croche. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que lorsqu'on ne fait pas confiance au Seigneur, c'est ce qui arrive dans nos vies. C'est tout d'un coup, on prend une mauvaise direction. Devient croche. Tu t'enlignes dans une mauvaise direction. Alors on comprend la frustration de Jésus-Christ. On sent sa hâte de retrouver son Père, vrai? Ce cher Sauveur. Il sent la faim. Combien de temps encore dois-je vous endurer? Ailleurs, on apprend qu'il n'y avait pas juste les disciples qui étaient là, ni juste le Père. Il y avait plusieurs personnes, d'ailleurs les scribes étaient présents, et vous pouvez certainement vous imaginer que les scribes devaient se réjouir de l'échec des disciples. Ils attendaient juste de voir les gaffes et les erreurs et tout ça, alors les scribes se réjouissent, sont là, et ils sont là parce qu'ils veulent attraper Jésus, ils veulent tuer Jésus, on l'a déjà vu dans les passages avant, ils ont déjà déterminé de monter un complot pour l'attraper puis le tuer. Alors vous avez les scribes qui sont là, qui ne croient pas au Seigneur Jésus, vous avez les disciples qui ont des problèmes, à qui Jésus enseigne depuis un bon bout de temps, enseigne, et les voilà encore qui ont besoin d'enseignement. Vous avez le Père, et on apprend dans Marc que même le Père avait des problèmes avec sa foi, il doutait, il a même prié Jésus, il a demandé à Jésus, aide-moi, j'ai la misère à croire. Jésus est entouré de personnes qui doutent, qui ne lui font pas confiance. Même après tous les miracles et tout ce qu'il a fait, ses œuvres magnifiques qu'il a fait, il a encore des doutes. Les disciples avaient tout pour guérir cet enfant-là. Ils avaient l'autorité, la puissance, ils avaient les dons miraculeux conférés par le Saint-Esprit. Ils avaient la promesse du Seigneur qu'ils pourraient le faire. Et ils l'ont fait, on a vu pour un bout de temps, ils l'ont fait, mais voilà qu'ils ne réussissent pas à le faire. Ah, verset 18. Jésus va guérir l'enfant. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Un ordre et l'enfant guéri. Sors! Juste un ordre. Sors! Comme ça. À l'heure même, le démon sort. Les démons se soumettent à Jésus-Christ sans hésitation. Aucun démon résiste à Jésus. Aucun obstacle n'est trop grand pour Christ. Aucune montagne trop haute pour qu'il puisse le relever. Ça, c'est Christ. C'est mon sauveur. C'est ton Seigneur, c'est Jésus. N'oubliez pas, c'est ton Dieu, ça. Les démons connaissent Christ. Regardez la réaction du démon lorsqu'ils ont emmené l'enfant devant Jésus. Le démon a réagi. Le démon qui était dans le fils a projeté le fils sur le sol en crise. L'enfant est tombé, roulait par terre, l'écume à la bouche. Il a réagi devant Jésus-Christ. Les démons ont peur de Christ. Et Jésus reprend le démon sévèrement. Et ça faisait des années que ce démon possédait cet enfant. Et en un clin d'œil, il disparaît. Et pour la première fois depuis des années, l'enfant se tourne vers son père et commence à lui parler. Il est muet, sourd, muet. Et tout d'un coup, ça fait des années que son père n'a pas pu lui parler. Et tout d'un coup, il commence à parler à son fils, à son père. Et le père répond, et il entend, il comprend. On peut comprendre la joie du père, n'est-ce pas? La joie du père. Quelle scène! D'ailleurs, nous apprenons dans Luc 9, 43 que tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Le mot peut également se traduire par majesté, par la majesté de Dieu. Tous étaient frappés de voir la majesté de Dieu. Le monde est émerveillé, les disciples aussi. Les disciples ne comprennent pas, alors voici ce qu'ils vont faire. Tu peux imaginer, quelque part, il y avait une question qui traînait dans la tête des disciples. C'était quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Maintenant, la foule est là, tout le monde est là. Alors, on peut comprendre la réaction un peu des disciples qui sont gênés, probablement, à ce stade-ci. Voici ce que nous lisons au verset 19. « Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. » Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Notez ça, ce mot-là, « en particulier ». En fait, ailleurs, on apprend que c'est dans une maison. Et on dit « Jésus, on aimerait ça te parler. » Ils n'ont pas demandé ça devant tout le monde. Ils ont dit, « Jésus, on n'est pas les capables. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? » Non. Ils ont pris Jésus et ils ont dit, « Tantôt, j'aimerais ça te parler, Jésus. On aimerait ça. On a une question pour toi. » Oh oui, pas de problème. Regardez Jésus. Hein? Jésus, quand même, est délicat envers eux autres. Avez-vous remarqué? Il a suivi. Alors, Jésus part dans la maison, s'en va dans la maison. Et là, les disciples posent la question. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable? Parce que dans un sens, vous pouvez imaginer la scène. C'était très embarrassant. Vous avez la foule qui vient, et là, les disciples sont là, et ils sont en train de guérir des gens. Et les enfants sont apportés, les adultes, les vieillards, plusieurs personnes viennent, et là, ils sont malades, et les disciples guérissent un après l'autre. C'est merveilleux, c'est glorieux, vrai? Moi, j'aimerais tellement ça avoir le don de guérison. Pas vous? Ah non, mais c'est glorieux, là. T'as quelqu'un qui souffre depuis des années, puis lève-toi et marche. Hein? Et là, tout d'un coup, dans la foule, un père vient avec son fils, il se jette à terre et tout ça, puis il dit, « Est-ce que vous pourriez guérir mon fils? » Il dit, « Avec plaisir! Aucun problème! On va guérir! » Alors, j'imagine la scène, ça devait être comme, « Alors, au nom de Jésus, sois guéri! » Là, l'enfant se jette à terre. L'enfant n'est pas guéri. Alors, il répète, il dit, au nom de Jésus, sois guéri! Mais là, il dit, ça marche pas. Là, la foule est là, puis la foule commence à se... Et vous pouvez imaginer la tristesse du père dans ça. Il vient de voir peut-être des centaines de gens guérir. Lui, il était convaincu que son fils guérirait. Alors là, l'un des disciples appelle l'autre, il dit, Serge, j'avais-tu venir ici? Essaye-toi. Essaye. Je t'ai vu faire des affaires hier. Là. Essaye. Alors Serge arrive, il dit, tasse-toi là. Tasse-toi. Yeah. Au nom de Jésus, guéris. Marche pas. Alors Serge appelle. Il appelle Bruno. Hey, Bruno, toi, t'es le meilleur de notre groupe. Deviens ton nom ici. Vas-y. Là, Bruno arrive, il dit, non, regarde, faut que tu te places comme ça, puis ça, là, puis tu tiennes de même, là, regarde. Je vais te donner un cours, je vais te montrer comment il faut faire ça. Regarde. Au nom de Jésus, guéris. Oui. Puis ça marche pas. Désolé. Ça marche pas. Hey, pouvez-vous juste imaginer un instant l'embarras des disciples devant la foule? Puis là, ça commence. C'est certain. Hein? Quand tu fais un but, tout le monde crie. Mais quand tu manques ton coup, tout le monde... Là, c'est l'échec. Alors, ils s'en vont voir Jésus en privé, dans la maison, tout seul, puis ils posent la question, « Seigneur, veux-tu bien nous dire c'est quoi qui s'est passé? » Mais Jésus va répondre. Il vous manque une chose. Alors, Jésus répond, au verset 20, il dit ceci, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Le mot incrédule est vraiment intéressant. Ça parle de pauvreté. Pas de quantité. Ça dit pas, oh, vous avez très peu de foi. C'est juste que la foi que vous avez est pauvre. D'accord? On parle pas de quantité. On parle, c'est pas riche. C'est faible. C'est malade. C'est pauvre. C'est pas bien. Elle est pas pleine de rigueur. Elle est pas pleine de zèle. Elle est pas effrontée. C'est pas une foi pleine d'assurance. Elle est pauvre. Leur foi n'est pas de qualité. Donc, leur foi est superficielle. Voyez-vous, les disciples pensaient que c'était un don, ça, puis ce don-là, cette affaire-là, c'était comme de la magie. Que ça fonctionnait tout seul, cette affaire-là. Non. C'est pas de la magie. Faut croire. Ça prenait de la foi. Ça prend de la foi. Ça prend une confiance qui est profonde, qui est réelle en Dieu pour que Dieu puisse agir et relâcher sa puissance. Voyez-vous, lorsque les disciples ont rencontré cette difficulté, ils se sont relâchés et leur foi s'est affaiblie. Un peu de difficulté et tout de suite, compte tenu que la foi n'est pas riche, n'est pas profonde, un peu d'obstacles et de difficultés et voilà que, paf, la foi tout d'un coup s'affaiblit. Pas de persévérance. Parfois, on va rencontrer nous-mêmes des situations qui seront difficiles. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsque ça ne se règle pas tout de suite? Comment est ta foi à ce moment-là? Et c'est ça qui se passe ici. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu fais face à des difficultés et tu pries et ça ne marche pas du premier coup? Tu essaies une deuxième fois, faut prier. Tu pries, ça ne marche pas. Tu pries encore, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Moi, je veux voir ta foi ce jour-là. Vois-tu, c'est facile d'avoir la foi lorsque le garde-manger est plein. Facile d'avoir la foi lorsque tes poches sont pleines. Ah, moi, je crois en Dieu. Mon ami, ça va tellement bien. Je vais avoir une promotion, augmentation de salaire. Ah, j'ai une belle épouse, fine, gentille, tout va bien, des bons enfants. C'est super. Moi, j'ai aucun problème dans la vie. Ah, je crois tellement en Dieu. Mais comment est ta foi quand tout ça est en train de tomber? Comment est ta foi comme Job qui était multimillionnaire et qui a tout perdu? Comment elle est ta foi à ce moment-là? Est-elle persévérante à continuer de prier, même si ça signifie que tu dois prier pendant des années et tu gardes en toi cette confiance tranquille que Dieu est au contrôle et que Dieu va agir et que Dieu est puissant et qu'il va prendre cette chose en main, cette difficulté. Il va te faire passer à travers ces temps difficiles. C'est la leçon que les disciples ont besoin d'apprendre ici. Une foi qui est riche, persévère. Une foi qui est réelle, qui n'est pas superficielle. Lorsque les difficultés arrivent et que tu rencontres un obstacle, il ne s'est pas réglé tout de suite. La foi te pousse. Cette foi qui est profonde continue. La foi qui est réelle va dire, je crois en Dieu même les mains vides. Je crois au Seigneur même au milieu de la tempête. Je crois au Seigneur même lorsqu'il faut nourrir 5000 hommes. Je crois à Dieu lorsque je n'ai pas assez d'argent pour payer le loyer. Je fais confiance à mon Seigneur car il est fidèle. C'est un Dieu fidèle et puissant. Une observation à faire. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé lorsque Jésus avait quitté et était au sommet de la montagne. Là, il faut vraiment croire sans voir. Et tout d'un coup, ça chambarde. Ça aurait été facile si les disciples avaient été là, puis là, tu commences à guérir quelqu'un, puis tu as un après l'autre, puis d'un coup, le père emmène cet enfant-là, et tu n'es pas capable de le guérir. Ah, ben tiens, Jésus est là. Hein? Alors, Jésus, veux-tu t'en occuper? Mais Jésus n'est pas là, il est au sommet de la montagne, Jésus est parti. Maintenant, tu dois croire sans voir. C'est vraiment là que ça se joue, hein? C'est vraiment là que la foi se voit, la qualité de ta foi, c'est là qu'elle est. Est-ce que Jésus est en train de les préparer, là, parce qu'il s'en va bientôt. Ils ont besoin d'avoir une foi plus solide, plus intense, plus riche, parce qu'il part. Il s'en va vers Jérusalem. Alors, les disciples apprennent que s'ils demandent de quoi au Seigneur, ils ne le recevront peut-être pas sur le champ. Et ça arrive. Ça prend la persévérance. Faut s'appuyer sur le Seigneur et être fidèle. Même les apôtres, avec tous leurs dons miraculeux, le pouvoir de guérir, de chasser les démons, même eux qui sont ultra doués, avaient besoin de foi avant de voir Dieu agir avec puissance. Amen. Nous aussi, on a besoin d'agir avec foi, de prier avec foi. On a besoin d'une foi réelle, profonde, pas juste superficielle. On a besoin de faire confiance au Seigneur, même lorsque ça ne fonctionne pas. De persévérer en s'appuyant sur le Dieu fidèle, et Dieu va agir. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne prend pas beaucoup de foi. On le voit au verset 20, regardez bien ce que verset 20 nous dit. Jésus continue en disant, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c'est petit ça. Ça ne te prend pas une foi géante. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Imaginez, rien ne vous serait impossible si tu avais la foi gros comme un grain de moutarde. C'est la qualité, hein? C'est pas la grandeur, c'est pas la grosseur de ta foi qui compte, c'est la qualité de ta foi. Ça peut être aussi peu qu'un grain de moutarde. Mais si c'est de la qualité, si elle est profonde, elle est vraie, elle est authentique, cette foi-là, elle n'est pas superficielle, tu vas être capable de déplacer des montagnes. Une expression qu'on a déjà expliquée ici très souvent, très commun à l'époque, c'est simplement de surmonter les difficultés. Montagne, c'est problème. En d'autres mots, si tu as un peu de foi, mais c'est de la foi de qualité, elle est vraie, elle est authentique, elle est profonde. Elle fait confiance au Seigneur. Tu seras capable de surmonter toutes les difficultés. Tu vas passer à travers. La puissance de Dieu va se relâcher, va te faire passer à travers. Je crois honnêtement que Dieu désire accomplir plein de belles choses dans notre vie. Dieu veut accomplir des choses dans chacune de nos vies. Et elles vont se réaliser en vous dans la mesure où vous allez canaliser la puissance de Dieu. On souhaite que chacun d'entre vous, là, vous partiez d'ici, vous quittez cette porte et vous entrez dans le monde où Dieu vous a placé, canalisant la puissance de Dieu pour vous, en vous et à travers vous. Vous pouvez partir ici avec la puissance de Dieu. Et c'est ça que vous voulez, c'est ça que nous voulons, c'est ça que Dieu veut. Il était frustré parce que les disciples ne se sont pas servis de la puissance de Dieu. Qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient en Dieu. Voilà la frustration du Seigneur. Ils ne s'en sont pas servis. Ils sont partis, ils ont agi par leur propre force lorsque c'est devenu difficile. Cette puissance sera relâchée si vous agissez avec foi, une foi profonde, réelle, une foi qui ne s'essouffle pas devant la montagne, une foi qui ne s'y laisse pas impressionner par les difficultés, quelles qu'elles soient. Parce que rien nous dit Jésus. C'est pas moi qui vous le dis, là. Jésus-Christ lui-même nous dit, bien-aimé, rien, absolument rien n'est impossible à celui qui a la foi. Amen. George Miller avait 5 amis. Et c'était cinq amis qui n'étaient pas croyants, n'étaient pas chrétiens. Alors, il a commencé à prier pour la conversion de ces 5 bonhommes-là. Après 5 ans de prière, le premier des 5 s'est finalement converti. 5 ans de prière. sans se relâcher, continue à prier pour ces cinq bonhommes-là. Et après 5 ans, imaginez, ça a pris 5 ans de prière avant que le premier réussisse ou décide de se convertir. 5 ans. Il a continué à prier, puis il dit, écoute, il m'en manque 4. Il a prié pendant 10 ans avant d'en voir 2 autres se convertir. 3 s'est converti. Il aurait pu dire, comme bien d'entre nous, alléluia, gloire à Dieu, super, je vais arrêter de prier. Mon doux Dieu, Dieu a fait des belles choses. 3 sur 5, c'est super. Non, non, Georges a dit, moi je prie pour 5. Alors il a continué de prier. Pendant 25 ans, il a prié avant que le 4e ne vienne au Seigneur. 25 ans, sans se relâcher, prier continuellement pour la conversion de ces 5 bonhommes-là. Le 4e est venu après 25 ans de prière. Mais il en manque un. Combien de temps ça a pris? Continuez de prier. Priez, marchait pas. Priez, vous n'avez rien à savoir. Priez, marchait pas. Priez. Il priait, il priait, il priait. Et savez-vous qu'à quelques mois avant sa mort, juste quelques mois avant sa mort, le 5e s'est finalement converti au Seigneur. Ça veut dire que ça faisait que ce bonhomme-là, ce 5e bonhomme-là, là, ça a pris 52 ans de prière pour que ce gars-là vienne au Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu peut agir? Dieu veut que nous ayons cette foi-là, qu'on quitte ce lieu ce matin avec sa puissance. Il veut nous la donner, mes chers amis, ça prend une foi qui est profonde, qui est réelle, qui est de qualité, qui persévère, qui croit assez Dieu que même si ça marche pas la première fois, ça va marcher peut-être la 3e, la 4e, peut-être après 52 ans, mais Dieu va agir. Amen, frères et sœurs. Alors, prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as fait de belles promesses dans les Écritures. Quelle promesse! Si on s'accroche à cette promesse ce matin, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Seigneur, nous partons ici, nous serons placés dans différents contextes, différents milieux de travail. On va se retrouver dans toutes sortes de situations, Seigneur, et parfois il y a des choses qui nous arrivent dont on ne s'attendait pas du tout, des obstacles, des défis. Et peut-être qu'on a commencé à prier pour certains besoins, Seigneur, certaines choses qui nous arrivent dans notre propre vie. Peut-être même la conversion de nos propres enfants, Seigneur. Ça fait des années, mais on ne voit pas nécessairement de fruits. Mais Seigneur, tu nous dis que l'on peut croire. On peut croire. Tu es le Dieu puissant et tu veux agir dans nous et à travers nous. Et on veut croire. On veut prier, Seigneur, et ne pas se relâcher, sachant que tu es le Dieu de l'impossible. Tu te plais, Seigneur, à prendre les situations les plus difficiles et les transformer, les changer pour ta gloire. Alors, Seigneur, nous partons d'ici déterminés, pleins de feu, pleins de vigueur. Et nous croyons, Seigneur, en toi, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et lorsque nous serons placés devant une montagne que tu auras probablement placée devant nous, Seigneur, nous sommes confiants. Nous mettons notre confiance en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous pouvons dire, nous allons la traverser, nous allons la déplacer, Seigneur. On ne se relâchera pas. On veut te plaire. On veut que tu sois honoré par l'attitude de foi de tes enfants. On veut que tu sois fier de nous, Seigneur. Oh Père, agis dans nos vies. Nous aussi, Seigneur, parfois, on est devant toi comme ce père qui est devant cet enfant qui souffre, de voir des gens très près de lui. Mais Seigneur, nous nous reposons en toi de savoir que tu es au contrôle. Nous sommes confiants, Seigneur. Rien t'échappe. Aucune montagne n'est trop haute pour toi. Aucune difficulté insurmontable. Pas capable n'est pas dans le ciel. Ni incapable. Tu peux tout, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Il y a peut-être des gens ce matin, comme les disciples, qui ne se sont pas servis de cette magnifique puissance dans leur vie, Seigneur. Nous avons lâché, nous avons lancé la serviette. Peut-être que nous sommes ici des chrétiens timides, chrétiens gênés, embarrassés, des chrétiens qui ont pris de mauvaises directions, qui ont manqué de foi. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons tous ensemble revenir à toi. Nous voulons croire, Seigneur. Peut-être qu'il y a même quelqu'un ici qui n'a pas encore cédé sa vie à toi. Et Seigneur, on te prie pour lui ce matin même, que tu puisses toucher son cœur, tu puisses le sauver, venir dans sa vie. Et Seigneur, manifeste ta puissance dans sa vie. Pour ta gloire, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour cette belle famille, pour cette belle église. Merci pour ton esprit qui nous donne cette puissance. Nous pouvons marcher de victoire en victoire, Seigneur, parce que tu nous l'as promis. Et c'est au nom de Jésus que nous t'apportons ces prières avec action de grâce, le cœur plein de zèle, de joie, plein d'excitation, Seigneur, à te servir dans le monde dans lequel tu nous as placés. Quels que soient les défis, quelles que soient les montagnes, nous sommes confiants, Seigneur, que tu nous donneras la victoire pour ta gloire. Amen.